c'est le front du lundi, c'est lundi et sous le tapis de bombe, on commence cette émission qui marque, attention, tenez-vous bien, 5 ans de cette petite émission qui vivote donc sur les ondes du 92.2. On va pas forcément fêter le temps qui passe parce qu'avec le temps, bah, tout s'en va comme vous l'avez écouté juste avant. On va parler avec CQFD, du dernier CQFD, hein, ce qu'il faut détruire, ce qu'il faut démontrer, ce qu'il faut dire, et ensuite, eh bien, petite surprise, mais on en reparle juste après. En attendant, sous les bombes, on accueille donc Bruno Le Dantec de CQFD.
Bonjour Bruno.
Salut.
Et voilà, ça marche comme sur des roulettes. Donc, t'auras, je sais pas si t'as entendu un numéro un peu spécial, c'est nos 5 ans. Du coup, ça tombe très bien, on fête ça, c'est très agréable de fêter ça. Ouais, merci, on est content de fêter ça en votre compagnie. Donc, toi, tu travailles à CQFD et t'as fait une petite balade, ce que tu nous disais tout à l'heure, là, une petite balade dans cette Espagne qui a vu le succès de pas mal de lignes de liste Podemos aux dernières municipales. Et vous avez envie d'aller y jeter un petit œil et pour voir de vos yeux. Le numéro vient de sortir, numéro 137, novembre 2015. Au-delà de Podemos, le Paris municipaliste. Est-ce que tu peux commencer peut-être en racontant ce que vous avez vu en allant, par où vous êtes passé?
Oui, donc nous sommes partis à deux, Ferdinand, Casalis et moi-même. Et au départ, nous sommes... Ferdi est parti à Barcelone, il est resté une semaine à Barcelone, ensuite nous sommes rejoints à Madrid, où nous sommes restés à peu près une semaine aussi, et puis ensuite encore quelques jours en Andalousie, à Séville, Cadix, Porto Real, qui est une petite ville ouvrière avec les chantiers navals de Cadix, là dans la baie de Cadix, et puis aussi à El Coronil, qui est un village historique du syndicat des ouvriers agricoles andalous, qui est connu pour ses occupations de terres, ses coopératives agricoles. Voilà. Et avec donc l'axe, oui, notre axe, ça a été un peu qu'est-ce qui s'est passé aux dernières municipales, qu'est-ce que représente, que signifie ce mouvement municipaliste, hein, puisqu'on parle de Paris municipaliste là-bas. Alors, quelle relation il a, oui, aussi avec cet effet Podemos qui a brièvement défrayé la chronique ici. On l'a présenté comme voilà un espèce de Syriza espagnol.
Effectivement, le parallèle était tentant. Vous revenez donc dans toutes les villes sur lesquelles vous êtes, que tu as citées, vous êtes allé passer du temps à chaque fois, rencontrer des gens. On se souvient qu'à Madrid, la candidate malheureuse aux élections avait fait des déclarations incendiaires le soir de sa défaite, en disant que le parti, que la mairie allait tomber aux mains des rouges, etc. Vous, qu'est-ce
elle a parlé d'installation des soviets dans les quartiers. Un ton assez très grandiloquent et dramatique.
Un ton un peu grandiloquent, dramatique, on imagine bien, ça rappelle une autre époque. Dans une ville, on va dire, quand même d'une certaine importance, comme Madrid, on parle bien de Madrid, la capitale espagnole. Alors, est-ce que Madrid est aux mains des soviets?
Non, on en est loin, bien évidemment, mais très loin. Mais il se passe des choses très intéressante. Et donc, tu disais tout à l'heure, là, tu parlais de candidature Podemos, il faut souligner quand même, pour expliquer à la fois le côté surprenant et je pense très ouvert de ces listes qui ont remporté toutes les grandes villes, pratiquement toutes les grandes villes en Espagne en mai dernier, c'est que Podemos, donc, qui a été présenté comme le Syriza espagnol, pariait surtout sur les législatives qui vont avoir lieu en décembre. Ils ne se sentaient ni la force, ni tellement ils avaient un profond intérêt à se coltiner là, à des municipalités, un pouvoir local. Ils visaient beaucoup plus les élections générales et les élections législatives. Et c'est là qu'il faut voir qu'il y a eu, ça a laissé une porte ouverte, disons, à des candidatures qui sont dans chaque ville un peu différentes. Hein. C'est des, suivant la trajectoire, l'histoire des mouvements sociaux ou des mouvements politiques à gauche de la gauche, on va dire, pour faire large.
D'ailleurs,
dans chaque, dans chaque chaque ville, il y a eu des candidatures spécifiques. Hein. À Barcelone, on a la maire de la ville qui est quand même qui est issue des mouvements des squats et qui était porte-parole de la plateforme des afectados por la hipoteca, c'est-à-dire le mouvement social qui aujourd'hui en Espagne est le plus puissant et qui lutte contre les expulsions à la fois locatives et hypothécaires, donc petits propriétaires qui sont expulsés largement parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur crédit.
Alors là, tu donnes l'exemple de Barcelone. Donc vous avez choisi de faire, en gros, il y a une page par ville dans laquelle vous êtes allé.
Il y a trois pages sur Barcelone, trois pages sur l'Andalousie, et pas loin de cinq pages sur Madrid, tout en avec quelques pages qui sont plus générales, hein, qui essayent d'analyser un peu ce qui se passe.
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez plutôt choisi de travailler sur des exemples précis, parce qu'il y a des contextes particuliers. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est par rapport à quel mouvement social vous avez rencontré. En fait, la plupart des gens qui maintenant sont aux manettes dans ces grandes municipalités, et c'est aussi d'ailleurs ils viennent de ce mouvement social-là. Donc du coup, comment est-ce qu'on négocie comme ça le passage d'avoir une longue culture d'opposition? Vous citez certaines personnes qui ont de tout temps travaillé dans des bibliothèques subversives, alternatives, on pourrait décliner comme ça les adjectifs, qui se retrouvent à s'occuper de quartiers huppés. Je reprends vos termes parce que moi je ne connais pas les quartiers en question. C'est des gens que vous avez pu rencontrer. Comment se fait ce basculement-là, quoi ? Est-ce que ça frotte un peu, j'imagine, dans la rue ? Est-ce que...
Ah oui, tout à fait. Mais tout le monde fait référence au fameux mouvement qu'on appelle là-bas du 15 mai, c'est-à-dire 15 mai. C'est-à-dire ce mouvement d'occupation des places, hein, dont on se souvient ici sous le nom un peu galvaudé du mouvement des indignés, hein, qui a eu lieu en 2011. Tout le monde situe le début du débat, est-ce qu'on doit essayer d'investir les institutions ou non, dans des mouvements qui sont la plupart, hein, ça il faut le souligner, quand même issus de ou l'autonomie madrilène, ou donc le mouvement des squats à Barcelone, ou en Andalousie, en lien avec le syndicat des ouvriers agricoles, comme je disais tout à l'heure, et avec quand même un fond culturel assez libertaire. Et donc comment on peut... C'est assez surprenant de se retrouver avec des gens qui effectivement se retrouvent aujourd'hui, comme donc Pablo Carmona, par exemple, qui est un membre de Traficante de Sueños, une librairie, comme tu viens de faire mention de librairie, maison d'édition madrilène qui existe depuis des années déjà, très liée au mouvement des squats, aux centres sociaux occupés, et qui aujourd'hui se retrouve effectivement maire de secteur dans les quartiers les plus huppés de Madrid. On lui a posé la question, on lui a demandé ce que ça représentait pour lui, qu'est-ce qui les avait amenés à parcourir ce chemin et à se retrouver dans cette situation-là. Eux, tout le monde dit, je n'ai rencontré personne qui se fait des illusions sur les institutions qu'ils viennent d'investir. Tous sont très critiques en disant voilà, ces institutions ne sont pas faites pour nous. Elles sont, ce sont des corps qui nous sont hostiles dans leur structure, qui ne sont pas pensés pour travailler pour le bien commun, mais pour l'intérêt de quelques-uns. Mais le mouvement social, ou en tout cas une partie de lui-même, hein, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, une partie de ce mouvement a pensé que, après les grands mouvements de protestation et de résistance après la crise de 2008, où quand même il faut quand même rappeler, hein, la situation de l'Espagne qui est guère mieux lotie aujourd'hui que la Grèce. Hein,
les chemins ont été un peu différents.
600 000 expulsions, par exemple, de logements de familles expulsées de leur logement.
Alors, je profite pour le dire que tous les chiffres que tu donnes, c'est évidemment des choses que vous reprenez, hein, dans votre dossier, le contexte social, les parcours de ces gens qui arrivent aux municipalités, avec une culture politique de bricoler des struces, des choses dans l'urgence, et qui se retrouvent avec quelques leviers du pouvoir inattendus. On va devoir s'interrompre parce qu'on a une longue cassette qui arrive après, c'est la surprise. En tout cas, merci Bruno Le Nantec de nous avoir accordé un petit peu de temps.
En tout cas, moi, je, ouais,
On a fait court.
J'encourage les gens à jeter un coup d'œil à
c'est ça,
ce
donc
dossier parce qu'on raconte des choses qui n'ont pas été dites dans les médias français.
Et qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là non plus. On rappelle donc que c'est le nouveau numéro de CQFD, hein, novembre 2015, que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies, au-delà de Podemos, le Paris municipaliste. Et tous les bons kiosques aussi, bien sûr. Voilà, il y a d'autres sujets dans ce numéro-là, mais c'est le gros dossier. Merci encore.
Merci à vous. Et félicitations encore une fois.
Eh ben, c'est à vous. Hein. J'espère que ça donne envie de voyager par papier interposé. À une prochaine.
Allez, à bientôt.
Au revoir.
Voilà, donc. CQFD, c'est fini. Maintenant, on va passer à la suite. Alors, la suite, donc, c'est la surprise. C'est la surprise parce que le temps passe. Le temps passe et ne laisse aucune chance à la jeunesse. C'est bien connu. Et le temps passe vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Alors, du coup, on allait chercher un vieux truc, un vieux débris, encore plus vieux que nous, pour pouvoir un peu compenser et se dire que c'est beau de vieillir parce qu'on se rappelle des choses. Alors, on vous passe à un montage qui est un collage de plein de gens qui ont fait de la radio à un moment. C'était une revue papier qui a fait un numéro audio, c'était Tic Tac. Tic Tac, empêcher les riches de se croire immortels et les pauvres de se croire condamnés. Empêcher les riches de se croire immortels et les pauvres de se croire condamnés. Voilà, c'était un peu le leitmotiv de cette radio, de ce journal. Et on s'écoute donc la version audio. C'est 1h20, on vous laisse avec ça. C'est du collector, c'est du bon, c'est du beau. C'est pour les 5 ans du Front du Lundi. On vous l'offre, voilà, c'est cadeau. En attendant quand même une petite musique pour voir le temps qui passe aussi. Et puis voilà, on vous laisse avec Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, le temps qui passe.
Cajitas en la colina, cajitas de Tic Tac, son cajitas pequeñitas, cajitas todas igual. Las hay blancas, las hay verdes y una de color azul. Todas son de tiquitaca, igualitas todas son. La gente que vive en ellas fue toda a la universidad. Los metieron en cajitas, salieron todos igual. Empresarios, abogados, médicos y economistas hay, todos son de tiquitaca, igualitos todos son. Los domingos van al fútbol y beben martini dry. Tienen niños que son majos y también estudiarán. Cuando el preu hayan pasado, irán a la universidad, donde los pondrán en cajas y saldrán todos igual. Los chicos van al negocio, se casan, tienen bebés, en cajas, pequeñas cajas, cajitas todas igual. Las hay blancas, las hay verdes y una de color azul. Todas son de tiquitaca, igualitas todas son.